Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Votre Bible, et nous allons situer notre réflexion, notre méditation ce soir dans un livre de l'Ancien Testament que l'on nomme le livre de Josué. Alors, c'est un livre un peu particulier, pour ceux qui l'ont lu, pour ceux qui connaissent un peu sa substance et ce qu'il dévoile. C'est le livre de la conquête du pays de Canaan par les Hébreux à la sortie d'Égypte. Alors voilà, donc Josué, nous allons faire la lecture de ce texte, le chapitre 1er. Enfin, une partie, un premier paragraphe, et puis nous commenterons ce passage. Alors Josué, chapitre 1er, verset 1er. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, Dieu dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve. » S'appelle l'Euphrate. Le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant, la Méditerranée. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse ou la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Voilà pour cette lecture. Amplement suffisant pour le commentaire que nous allons partager maintenant. Et je voudrais mettre l'accent sur quelque chose que nous connaissons, dont peut-être nous avons déjà pratiqué. Quelquefois, la chose dont je voudrais vous parler nous manque, ça peut arriver, c'est le courage. Et c'est vrai que c'est une qualité qui fait des hommes des braves. C'est comme ça que on qualifie les soldats, par exemple, puisqu'ils engagent leur vie. Et le courage, c'est quelque chose dont il nous est parlé dans la Bible. Et peut-être que ce soir, alors que j'ai eu à cœur de vous parler sur ce thème, peut-être que quelqu'un parmi nous a-t-il besoin de courage. A-t-il manqué ces derniers jours, ou même à l'instant où nous réunissons peut-être le courage. Et je voudrais souligner encore une deuxième chose, le courage d'affronter l'inconnu. Il y a des choses qui peuvent nous rendre très perplexes, parce que nous sommes confrontés avec des réalités que nous voyons, nous les connaissons, elles sont devant nous, et nous manquons parfois de courage. Mais il y a dans le texte que nous allons explorer ensemble, c'est le courage des choses qui sont inconnues. De pouvoir affronter l'inconnu. et je voudrais le dire et je le redirai ce soir, l'inconnu pour l'homme, c'est le connu de Dieu. Donc ça suppose une chose, c'est que là nous n'avons pas d'autre alternative, c'est de lui faire confiance. Et c'est bien l'histoire de Josué. Josué, comme l'exemple d'Abraham, a dû avoir beaucoup de courage pour affronter finalement une mission dont il avait certainement entendu parler par Moïse, mais c'était l'inconnu. Il allait conquérir, par la foi, un pays qui était présenté comme redoutable, le pays de Canaan, et où Dieu avait donné cette promesse, c'est là où je vous bénirai, c'est là où coule le lait, le miel, et c'est là où je veux que mon peuple puisse résider, et bien toujours. Et Josué est ce personnage de la Bible qui va devoir gérer une nation entière, c'est-à-dire à peu près 2 millions de personnes, imaginez-vous, pour les faire rentrer dans ce pays promis et de les faire rentrer par la foi. Alors il y a des choses qui sont très intéressantes dans ce livre, parce que c'est un pays de conquête et de victoire. Un pays qui, finalement, eh bien, est à la portée de tout ce peuple des Hébreux, mais il faut qu'ils fassent confiance à Dieu, parce qu'ils marchent vers l'inconnu. Ils n'ont jamais été. Cette génération n'a jamais été en Canaan. Il y a des espions qui vont faire la démarche pour voir un peu ce qu'il y a, et ils vont être complètement effrayés. Et c'est là où il faut du courage. Et le courage présenté dans ce livre de Josué est quelque chose d'assez étonnant. Nous l'avons lu il y a un instant. Un géant disparaît, il s'appelle Moïse. Je dis bien un géant. Parce que c'est lui qui a été sollicité ou appelé par Dieu pour faire sortir la nation d'Israël de la férule, de la tyrannie de Pharaon. Et c'était quelque chose, imaginez-vous, un peuple d'esclaves qui va échapper à la nation, à l'empire le plus puissant du monde d'alors. Et c'est Moïse qui va être, eh bien là, le conducteur, c'est lui qui plus tard va devenir le législateur de ce peuple, en recevant les 10 commandements. C'est lui qui va devenir le prince d'Israël. C'est lui qui va les conduire pendant 40 ans dans le désert. Et là, il arrive un temps, ou un moment, où Moïse est très vieux. Il a près de 120 ans, nous dit la Bible. Et il va falloir passer le relais à un jeune homme qui s'appelle Josué. Et qui manque nécessairement d'expérience, de vie, tout simplement, pour une telle œuvre. Et l'œuvre est colossale pour Moïse. Un homme de foi, un homme qui craint Dieu, un homme qui obéit à Dieu. Et là maintenant, eh bien, son temps est fini. Et un géant va disparaître, mais un héros va se lever, il s'appelle Josué. Donc il y a une passation de pouvoir, une passation d'autorité en quelque sorte. Et le temps de la grande réalisation divine est arrivé. C'est ce que nous dit le texte. Après la mort de Moïse, l'Éternel dit à Josué, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Voilà les choses comme elles sont présentées. Vous remarquerez les promesses d'hier, les vieilles promesses qui remontent à des siècles et des siècles, qui ont commencé par, on pourrait peut-être commencer par Abraham, par tous les patriarches. Eh bien, ces promesses ont subsisté à travers les temps. Et elles vont trouver leur actualité, et ce qui a été dit sera. Maintenant, c'est le moment. Et ça va être en quelque sorte la vocation, ça va être la responsabilité de ce jeune personnage qui s'appelle Josué, eh bien, de réaliser les promesses de Dieu. Moïse les a mis en place. Moïse a préparé cette entrée. Mais il ne rentrera jamais dans le pays de Canaan, Moïse. Il mourra avant. Il le verra de loin, tout simplement. Mais c'est Josué qui va finalement eh bien, réaliser cette pensée de Dieu. Si nous continuons à lire, nous voyons que tout lieu, Dieu va lui parler. Et il va lui dire maintenant, tu vas te lever, c'est toi qui vas avoir l'honneur et la responsabilité. Et Dieu va lui dire ceci, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Il y a là finalement la grande leçon de la foi. Nous avons deux jambes, l'une à côté de l'autre, mais quand nous marchons, il y en a toujours une qui devance Et ensuite, vous comprenez, ça c'est la marche. Et il y a cette image qu'à chaque fois qu'un homme, et particulièrement, je le mets dans le contexte d'un homme de foi, un homme qui saisit les promesses de Dieu, qui croit Dieu sur parole, alors à ce moment-là, bien c'est comme quand il marche. Un pas, un autre, et c'est comme ça qu'on avance. Et on s'aperçoit que Dieu va lui dire, chaque fois que toi et ton peuple va pénétrer dans le pays de Canaan, à chaque fois que vous mettrez un pied devant l'autre, alors ce territoire sera à vous. C'est comme si, eh bien, il y avait quelque chose symboliquement, mais qui sera une réalité concrète, c'est que vous allez prendre ce pays et il sera à vous. Mais il faut avancer et ne pas reculer. Et la foi, c'est la même chose. Et qu'est-ce que nous avons comme preuve? Aucune. Qu'est-ce que nous avons comme élément qui peut nous donner d'aller de l'avant? Rien. La seule chose que nous avons, c'est parce que Dieu nous a dit, c'était à nous. Il nous a fait des promesses. Et c'est ainsi que nous marchons. Si je vais un peu plus loin dans le verset 5, ou le verset 4, vous aurez pour territoire, donc là, eh bien, l'espace est donné en configuration, l'espace géographique est donné à Josué, et il dit ceci, tout lieu que foulera la pente de votre pied, je vous le donne donc, vous aurez pour territoire, c'est-à-dire le désert à l'orient, le Liban au nord, jusqu'au grand fleuve, c'est le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, c'est le pays de Canaan, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant, c'est la Méditerranée. Imaginez-vous que l'Israël, que Dieu avait réservé à Israël, que ce grand territoire, c'était un véritable empire. Imaginez-vous jusqu'au fleuve de l'Euphrate, c'est-à-dire que ça serait un pays qui aurait eu comme frontière jusqu'à la Turquie, par exemple, le Liban, la Turquie, qui allait jusque dans la région après la Syrie jusqu'à l'Irak, et qui descendait vers le sud, naturellement, et qui avait comme frontière maritime, eh bien, tout simplement, toute la Méditerranée. Enfin, cette partie de la Méditerranée, de la côte, naturellement. Donc, ça faisait un empire. C'est quelque chose. Un seul roi d'Israël atteindra presque, ce sera Salomon. Mais autrement, on s'est aperçu que par manque de foi, Israël s'est toujours cantonné dans un petit territoire, malheureusement pour lui. Et d'ailleurs, c'est encore le débat aujourd'hui. Hein ? Ne serait-ce que pour prendre quelques kilomètres carrés, même quelques hectares aujourd'hui, c'est la guerre en permanence en Israël aujourd'hui. Pour construire et tout ça, c'est un grand débat dans lequel nous ne voulons pas rentrer, parce que ça ne nous concerne pas et ça ne nous intéresse pas non plus dans ce que nous sommes en train de discuter. Et voilà que il y a une parole qui surgit après. Dieu va parler à Josué et va lui dire « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse et avec cette promesse, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Et ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que Dieu s'adresse à un homme. Dieu aujourd'hui s'adresse à des hommes, des femmes que nous sommes. Et je crois que Dieu tient exactement le même langage lorsqu'il voit qu'il y a un terrain favorable à la foi, à la confiance, à lui faire confiance. Et Dieu nous dit pas autre chose que, eh bien, que ces paroles. Nul ne tiendra devant toi. Il s'agit d'un combat. Il s'agit d'une lutte. Il s'agit d'une conquête. Il s'agit de prendre un territoire. Naturellement, ça reste dans le contexte que nous avons déjà défini. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Une parole de Dieu pour faire ce que Dieu dit. Mais quand Dieu nous dit quelque chose, et qu'il nous demande de faire ou de réaliser cette parole, en quelque sorte, c'est lui qui va nous aider à la réaliser. Ce n'est pas nous. Il ne s'agissait pas pour nous, pour Josué, de composer une stratégie militaire. Mais c'était une avancée, une marche par la foi, tout simplement. Et j'aime bien cette parole du prophète Ésaïe quand il nous a dit ces mots. Tout ce que nous accomplissons, Seigneur, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Le terrain, le chemin, la route, le sentier est déjà tracé. Il s'agit tout simplement de marcher dedans et de lui faire confiance. Et c'est pourquoi il est dit, mais tu n'as pas à avoir peur, parce que le grand problème, et nous allons le voir par rapport au courage, le grand problème, c'est la peur, ce sont les craintes, ce sont nos raisonnements, ce sont nos déductions et nos analyses en disant, mais je n'y arriverai jamais. Et quelquefois, j'ai pensé que Josué pouvait se dire, comme un autre le dira beaucoup plus tard, l'apôtre Paul, mais qui peut être suffisant pour ces choses? La marche La marche par la foi est une marche qui est difficile, c'est vrai. Mais à la fois tellement difficile, mais tellement facile, lorsque nous nous reposons sur Dieu, puisque c'est lui qui va faire les choses. Mais c'est de lui faire confiance sans le voir. De croire que ce qu'il nous dit, eh bien, s'il nous fait des promesses, si peut-être dans des cas particuliers qui nous intéressent, qui vous intéressent, quand Dieu nous promet qu'il prend soin de nous, qu'il pourvoira tous nos besoins, qu'il est capable non seulement de nous soulager de nos souffrances et de nos peines et de nos chagrins, mais qu'il va nous délivrer, nous apporter une libération, et c'est lui qui va le faire. Et ça, je crois qu'il faut absolument que je sois dans une dimension d'abandon et d'une confiance pleine et entière. Et c'était le problème de Josué. Alors Dieu va lui dire, mais n'aie pas peur. Ça devait être effrayant. Hein. Ça devait être quelque chose d'assez étonnant, naturellement. Et il dira, mais tant que tu vivras, moi je serai avec toi. Tant que tu auras souffle de vie, je ne t'abandonnerai pas. C'est confirmé, comme j'étais avec Moïse. Et autant soit peu que, pour autant que Josué, qui était quand même beaucoup plus jeune que Moïse, ait vu dans les dernières années comment Dieu avait conduit Moïse, ça devait être un encouragement pour lui. Hein. Ça, c'est sûr. Et quelquefois, il y a des exemples autour de nous qui peuvent nous encourager de voir comment Dieu a fait pour d'autres. Il a fait pour des frères et des sœurs. Il a fait pour des chrétiens, pour des membres de notre famille, croyants, et de dire, eh bien, ce qu'il a fait pour eux, il peut le faire encore pour moi, parce que Dieu ne change pas. Il n'y a qu'une chose qui va le faire agir. C'est tout simplement de faire foi à ce qu'il est et à ce qu'il dit. Ça, il n'y a pas autre chose. Et Dieu va lui dire, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Nul ne tiendra devant toi, naturellement, tant que tu vivras. Un peu plus loin, nous allons dans notre méditation. Dieu va lui ajouter ceci, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Et là, nous en arrivons à quelque chose de particulier, à une question avec une réponse que j'aimerais formuler ou formaliser en quelque sorte à travers une simple définition. Qu'est-ce que le courage ? Ouais. Alors c'est vrai que ces derniers temps, là, puisque nous sommes dans le centenaire de la commémoration de cette terrible carnage de la guerre 14-18, on a parlé beaucoup de braves, d'hommes qui partaient, mais qui aucunement ne savaient s'ils allaient revenir. Et ça, c'est quelque chose de terrible pour des jeunes gens de 18, 20 ans et plus. C'est quelque chose de terrible. On a parlé des braves. Et il y a eu certainement beaucoup d'actes de bravoure. D'ailleurs, on ne leur donnait pas le choix. Parce que quand ils devaient aller, quand ils devaient sortir de la tranchée, quand ils devaient franchir finalement le talus pour se mettre à découvert devant l'ennemi, ils avaient ceux qui les attendaient pour les éliminer, puis il y avait ceux qui étaient derrière, c'est-à-dire leur propre chef, qui poussait parce qu'il n'y avait pas le choix. Hein. Mais imaginez-vous un peu ce que c'est que le courage. Terrible, hein. Le courage pour eux-mêmes, le courage pour aller sauver les autres aussi. Le courage pour survivre dans des conditions épouvantables. Eh oui. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui ont été fusillés pour l'exemple, parce qu'ils manquaient de courage. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ceux qui peut-être ont été à l'origine de ce massacre, qu'est-ce qu'ils auraient fait eux-mêmes, hein ? C'est terrible, hein, des choses pareilles. Mais le courage, qu'est-ce que peut veut dire ce mot ? J'ai trouvé une définition qui peut peut-être nous aider à comprendre et à nous aider nous-mêmes. Il est dit que le vrai courage est de faire ce qu'on a peur d'accomplir. Eh oui. Parce qu'on ne peut pas parler de courage quand on fait les choses et que c'est facile, et puis ce n'est pas de la bravade, ce n'est pas de la témérité, le vrai courage, c'est justement d'accomplir, de faire ce qu'on a peur de faire. Et on est tous passés par là à un moment ou à un autre, en réfléchissant, en se disant, devant peut-être un examen, devant une situation de difficulté, ou une rencontre peut-être avec des gens qui nous ont impressionnés, de dire, mais on a toujours eu le mouvement à un moment donné en disant, j'y vais pas. Ou je ne fais pas. Je pense qu'on a certainement des souvenirs dans ce domaine. Et puis, peut-être d'autres nous ont encouragés, nous y sommes allés, et puis nous avons vu que nous avons eu peur. Mais néanmoins, eh bien, notre peur a été vaincue. Parce que le gros problème, c'est bien cela. Ce qu'on a peur d'accomplir, Et en quelque sorte, si nous prolongeons la réflexion et la définition, c'est dominer sa peur, ses craintes, voire même son effroi, pour voir réaliser ce qui nous semble impossible. Alors on repousse encore les frontières beaucoup plus loin. Humainement parlant, on se dit « Non, j'y arriverai pas. Non, je n'en suis pas capable. Non, je baisse les bras parce que c'est hors de ma portée, c'est hors de mes capacités. » Et vous savez que David dira à un moment donné, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et bien ça, c'est une parole, une affirmation d'un homme de foi. Et vous savez que David était un combattant, il était un guerrier. Il était un valeureux soldat, David, le roi David. Et dominer nos peurs, c'est terrible la peur. Ça vous met dans un état. Hein, on est complètement paralysé parce que la question est là. La conséquence de la peur, c'est que ça vous met physiquement même, psychologiquement, je ne vous dis pas. Et ça vous neutralise. On dit, mais non, on est complètement là, glacé, en quelque sorte. Eh bien, justement, c'est de pouvoir trouver l'énergie nécessaire, les forces nécessaires de surmonter cette peur, de faire taire peut-être la voix de ces craintes et de cette peur pour réaliser ce qui nous semble impossible. Or, vous savez que Jésus nous dit que tout ce qui est impossible aux hommes devient possible à Dieu, et toujours possible à Dieu. Alors, il faut trouver notre partie dans cette affaire. Soit nous allons, abandonner et reculer, mais nous ne verrons jamais la victoire et la conquête du pays de Canaan, si on veut rester un peu dans notre pensée, ou autrement, nous allons aller de l'avant en comptant sur Dieu, tout simplement, nous abandonner entre les mains de Dieu. Et c'est comme ça que nous y arrivons. C'est comme ça que pour la plupart d'entre nous, c'est comme ça que nous avons franchi quelque part des étapes et qu'aujourd'hui nous pouvons le dire aux autres que c'est possible. Et si quelqu'un s'est posé la question cette semaine en disant « Mais pour moi c'est impossible, c'est insurmontable, la montagne est trop haute, la Jéricho est tellement bardée de fer et inaccessible. » Ben oui, mais c'est bien ça des grands défis. Et quand nous lisons l'Évangile, et que lorsque nous voyons ces hommes, ces femmes qui se pressent vers Jésus, avec soi leur maladie, leur infirmité, leur vie complètement décousue, leur vie endommagée, venir vers Jésus et lui demander qu'il intervienne, nous voyons que ces hommes vont surmonter leurs craintes, leurs peurs, et c'est comme ça qu'il va y avoir ces fameux récits extraordinaires de délivrance, de guérison et de salut. Aller vers l'inconnu, parce que je ne sais pas ce qui m'attend. J'ai bien entendu parler qu'il y avait des dangers et des périls. Bon, c'est vrai. Je suis exposé à telle ou telle situation, mais allez affronter l'inconnu. C'est-à-dire ce que l'on ignore encore. Ce que l'on ignore, ce que nous n'avons jamais éprouvé. C'est-à-dire que ce que nous n'avons jamais expérimenté. C'est un chemin neuf. C'est un chemin nouveau dans lequel, eh bien, en quelque sorte, je vais me faire aventurier, et quand bien même je prends toutes les précautions, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est ça, justement. L'inconnu est toujours une aventure. Et vous savez, l'aventure de la foi, l'aventure de répondre à l'appel de Dieu, l'aventure de lui donner notre vie, l'aventure de lui laisser faire cette œuvre de transformation, de régénération de notre être, corps, âme et esprit, l'âme et l'esprit. C'est quand même quelque chose d'inconnu pour nous. Parce que nous sommes terre à terre, nous sommes là avec des réalités qui nous amènent des analyses, des considérations, des raisonnements, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est inconnu de Dieu. C'est inconnu de cet appel de Dieu, de cette vocation que Dieu me donne, de ce que là, il veut que je réalise peut-être pour lui, que je sois en bénédiction aux autres. C'est assez effrayant, il faut bien le reconnaître. Je ne sais pas. Alors, c'est toujours une aventure hasardeuse pour les incroyants. Je dis bien hasardeuse. On parlera de hasard. Mais nous découvrons à travers les textes de l'Évangile que c'est toujours quelque chose qui est marqué, qui est frappé d'allégresse, de force et de prouesse pour les croyants. C'est pour ça que nous avons ces si belles histoires dans la Bible. Nous avons Abraham qui va tout laisser pour entendre, pour répondre à une voix qui l'appelle. Nous avons un homme comme David, par exemple, et il y en a tant d'autres, et dans le Nouveau Testament, alors là, il pullule, il y en a des dizaines et des dizaines qui vont répondre à l'appel. Vous ne voyez pas que quand Matthieu, l'auteur de l'Évangile, eh bien, a vu Jésus devant, finalement, eh bien, là, sa table de péage, et que Jésus lui a dit « Viens et suis-moi », il nous a dit qu'il a tout laissé pour suivre Jésus. C'était bien inconnu pour lui aussi. Et heureusement qu'il a suivi Jésus, parce qu'on n'aurait pas ce merveilleux évangile que l'on appelle l'évangile de Matthieu. Et il y en a d'autres comme ça. Qu'est-ce que nous avons fait le jour où il y a peut-être, c'est proche, ou peut-être c'est beaucoup plus lointain pour d'autres, mais le jour où nous avons véritablement senti qu'il y avait quelque chose au fond de notre cœur qui nous appelait à être, qui nous appelait à rentrer dans une autre dimension, qui nous appelait pour certains à servir Dieu, à abandonner toute notre vie pour le servir lui, et nous consacrer alors que nous aurions pu avoir une situation autrement. Qu'est-ce qui nous a motivés? Nous partions vers l'inconnu. Et je peux vous dire que ça a toujours été marqué, en ce qui me concerne, par une joie, par une allégresse, par une certaine force que je ne connaissais pas. Et oui, c'est ça justement. Choisir de faire ce que l'on ne sait pas, ou ce qu'on ne sait pas encore, on le saura bientôt. Mais on le sait. C'est parce que je veux m'engager que je vais bientôt savoir. Et c'est parce que je m'engage que je vais découvrir ce que Dieu a promis, ce que Dieu a préparé pour moi, et je vais le vivre après. Ce n'est plus une espérance, c'est une réalisation. Quelque chose de construit. Affronter les incertitudes de la vie. C'est aussi une marche par la foi. La peur, c'est l'ennemi du courage. Alors je reviens, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est la promesse. Je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Que ces paroles ce soir puissent être vraiment frappées dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre conscience en disant mais moi je crois que Dieu ne va pas m'abandonner, je crois qu'il ne va pas me délaisser, il a quelque chose de bon, je le pressens. Même si je ne sais pas encore tout à fait, mais je sens qu'il y a quelque chose de bon. Je sens que Dieu s'approche de moi et il a préparé quelque chose. C'est la marche, tout simplement, par la foi. Et la peur. Elle veut dire, réfléchis bien, ne pars pas à l'aveugle. Prends tes garanties. Jésus donnera une petite parole, une petite parabole, quand il dira que certains sont venus vers lui en disant, je te suivrai partout où tu iras. Vous savez comment Jésus a répondu? Il le dit, mais il ne le fera jamais. Je donnerai ma vie pour toi, dira par exemple Thomas. Vous savez, celui de l'Évangile. Ou Pierre, je donnerai aussi ma vie pour toi. Bon, on sait que quelques heures après, il l'a renié. Voilà, tout simplement. Alors la peur, c'est vraiment l'ennemi du courage. Et les raisons de notre foi et de notre force nous sont décrites naturellement, ce que j'ai lu. Dieu va lui dire, mais fortifie-toi. Et comment se fortifier? Prends courage, car c'est toi qui vas mettre ce peuple en possession du pays que je lui donne. Fortifie-toi une deuxième fois seulement et aie courage en agissant fidèlement selon ma parole, etc., etc. Eh oui. Ton Dieu marchera avec toi, nous dit un autre texte similaire dans Deutéronome chapitre 31. Je l'ai lu, je le mets en confirmation. Tu tiendras envers et contre tout, contre tes ennemis. Vous savez, il y a la peur. Et qu'est-ce qu'il nous est dit de la peur? Et de la peur des hommes, particulièrement. J'ouvre le prophète Ésaïe au chapitre 51, écoutez ce qu'il est dit. Ça, c'est une promesse de Dieu. Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec des chants de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête, l'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Et regardez, écoutez bien, c'est moi qui vous console, qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel? Et du Fils de l'homme pareil à l'herbe. Et tu oublierais ton Dieu, tu oublierais l'Éternel qui t'a fait. Qui va avoir la prédominance dans cette affaire? Est-ce que c'est la peur? La peur des hommes? La peur de l'échec? La peur de ne pas réussir? Ou alors, c'est vraiment ma foi et mon espérance que j'ai en Dieu? Qui es-tu pour trembler devant l'homme mortel? Qu'est-ce qu'un homme mortel peut nous faire? Parce que si Dieu est pour nous, vous connaissez la réponse, mais qui sera contre nous, naturellement? Vous le savez, ça. Le verset 7, c'est le mandat divin. Une parole qui donne force et courage d'agir et d'accomplir. Nous l'avons lu, fortifie-toi seulement et garde bon courage. Ne te laisse pas voler ton courage. Ne te laisse pas, finalement, perturber dans ton courage. Ne te laisse pas ravir ce que je t'ai donné. Le courage, c'est quelque chose de tellement important, tellement essentiel. L'inconnu pour l'homme, je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, l'inconnu pour les hommes que nous sommes, c'est le connu de Dieu. Naturellement. Parce qu'il sait comment, où, quand et pourquoi. Et moi, je ne sais rien de tout ça. Si j'avais pu prévoir, il y a une quarantaine d'années, lorsque Dieu m'a appelé, ce n'est pas orgueilleux de dire ça, mais je crois qu'il y a eu un appel authentique. Parce qu'autrement, je n'aurais pas tenu le coup pendant 40 ans. La foi, ce n'est pas une affaire de quelques jours, de quelques années, c'est une affaire d'une vie entière. Et je ne savais pas ni le où, ni le comment, ni le pourquoi, et comment les choses pouvaient se passer. Mais une chose qui est certaine, c'est que ce que je ne savais pas, Dieu le savait, et je lui ai fait confiance, tout simplement. Et ça suffisait. Ça suffisait. Réussir dans tout ce que tu entreprendras, et je crois que c'est un désir pour tous les hommes, qu'ils soient croyants ou non. Et réussir dans tout ce que nous entreprenons. Aujourd'hui, nous sommes dans une période très difficile où il y a tellement de faillites. Et ce ne sont pas des faillites économiques seulement. Ce ne sont pas des faillites d'affaires. Mais ce sont des faillites, que ce soit dans la vie familiale, dans la vie du couple, dans toutes sortes de choses. Des faillites, il y en a partout. Mais peut-être nous pouvons nous poser la question dans le sens positif. Où il nous est dit, où Dieu dira à Josué, « Mais tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Pourquoi ?» Eh bien, le pourquoi, c'est le verset 8 qui nous répond. Écoutez bien. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, en agissant fidèlement d'après ma parole, la loi de Moïse, que j'ai donnée à Moïse, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Il y a une chose qui fait réussir l'homme, qui fait réussir l'homme de foi. C'est de nous imprégner, c'est de nous fonder, c'est de nous inspirer, c'est de nous nourrir tout simplement de sa parole. Et qu'est-ce que nous faisons ce soir? Eh bien, nous faisons que nous restituons cette parole de Dieu d'une manière simple, avec un langage, j'espère, très simple, accessible et compréhensible pour tout le monde, pour que nous puissions véritablement, eh bien, fortifier notre foi et notre confiance et notre espérance en Dieu. Lorsque nous lisons la Bible tous les jours, si vous le faites tous les jours, eh bien, vous ne faites que fortifier votre foi, prendre courage, et ainsi, eh bien, nous sommes sur le chemin de la réussite. Si nous mettons ces principes de vie et principes spirituels en pratique. C'est ainsi que Josué va trouver la force de conquérir le pays de Canaan et de le donner au peuple d'Israël, au peuple des Hébreux, et ainsi de pouvoir réaliser le grand projet de Dieu, le grand projet de salut de Dieu. Le courage est dépendant de notre confiance, de notre obéissance, de notre fidélité à ce que Dieu déclare possible. Peut-être vous vous dites encore une fois, je le répète, il y a des choses qui vous semblent inaccessibles, qui vous semblent donc impossibles, incompréhensibles à réaliser. Vous dites, mais je ne sais pas, je ne peux pas. Voilà, c'est souvent je ne peux pas. Mais vous entendez ce texte, vous entendez ce récit, pourquoi il nous a été consigné, et qu'il a traversé les siècles et les siècles, parce que ce n'est pas d'hier, Josué. Imaginez-vous, ça remonte à des milliers et des milliers d'années. On peut dire peut-être comme ça. Et on s'aperçoit que si ce texte est encore lu, tellement encore parcouru par des hommes de notre temps, de notre génération, c'est qu'il y a un principe spirituel dedans, un principe de vie, un principe de réussite, un principe de bénédiction vers l'inconnu. Ah oui. Vous ne croyez pas que Pierre, quand il est sorti de la barque, ce jour où il y avait une telle tempête sur le lac de Tibériade, n'allait pas vers l'inconnu? Il a marché sur les eaux. Et il a marché par la foi. Il a marché parce qu'il a fait confiance à cette parole que Jésus lui dit, « Viens maintenant vers moi. Si c'est toi, Jésus, ordonne que j'aille vers toi. » Jésus lui répond, « Viens maintenant. » Et Pierre a marché vers l'inconnu, au milieu de la tempête. Encore un exemple, vers l'inconnu. L'officier du roi qui nous est dépeint dans le chapitre 5 de l'évangile de Jean, qui va dire à Jésus, viens, descends avec moi, impose les mains à mon enfant, et il sera guéri. Vous savez ce que Jésus va lui dire? Il va lui dire tout simplement, va, retourne vers ton fils, je ne viens pas avec toi, parce que va, parce que ton fils vit. » Il nous est dit que cet homme crut à la parole de Jésus, et quand il est arrivé sans Jésus devant l'enfant, eh bien l'enfant était guéri. Est-ce que ce n'est pas marcher vers l'inconnu ? Aux noces de Cana, vous savez ce qui s'est passé ? Plus de vin. Jésus va dire à l'ordonnateur du repas et à tous les serviteurs qui sont là, il va dire, remplissez ces cruches et ces jarres, remplissez-les d'eau. Quand les choses ont été remplies d'eau, Jésus a demandé à l'ordonnateur du repas de goûter, ce n'était plus de l'eau, c'était du vin. Il a marché vers l'inconnu. Enfin, pour Jésus, parce que lui, il savait en tous les cas comment ça allait se passer. Mais, quel jour de fête, hein ? Je voudrais tirer une conclusion, si vous voulez. Ça, c'est marcher vers l'inconnu. C'est l'insolite. C'est l'impensable. C'est l'improbable. Eh bien, c'est ce que Dieu nous demande ce soir. Oui. Nous sommes peut-être devant une montagne, devant une muraille de Jéricho. Nous sommes devant peut-être un fossé tellement profond, un précipice peut-être. Et nous nous disons, mais comment vais-je faire ? Comment puis-je faire ? Eh bien, toutes ces choses improbables, impensables, incroyables, le Seigneur va dire, fortifie-toi et prends courage. Alors à ce moment-là, tu vas traverser les étapes. Tu vas marcher et tu verras, tu auras du succès dans tes entreprises. Parce que ce ne sont pas tes entreprises, c'est moi qui ai mis dans ton cœur la pensée de réaliser ceci et cela. C'est ce que devait certainement penser Josué. Je voudrais vous raconter une dernière chose, une histoire de courage et de foi. Écoutez bien. Vous savez que c'est souvent dans les moments de détresse, dans les moments où les hommes sont dans la grande angoisse, qui mettent souvent, et c'est souvent ces moments-là, qui mettent en valeur les plus beaux exemples de courage. Ouais. Le soldat sur le front, dans des situations accidentelles, où là, eh bien, quelqu'un est en train de se noyer dans un torrent, comme nous le voyons malheureusement là, dans le midi de la France, où des gens vont se jeter à l'eau pour aller sauver une femme ou un enfant. Prisonnier, là, sur un îlot, ne serait-ce que sur le toit d'une voiture, parce que ça, c'est des actes de courage. Puis il y en a d'autres comme ça, des actes semblables. C'est souvent dans des moments difficiles. Simplement pour vous rapporter l'histoire d'un général, naturellement, général d'armée, qui vient de condamner un ennemi qui est fait prisonnier. Et ce général avait une façon tout à fait particulière de traiter les choses. Et il avait cette stupéfiante habitude d'offrir aux captifs, donc aux prisonniers, le choix entre deux possibilités. Deux, et pas trois, deux possibilités. Le peloton d'exécution, c'est ce qui se fait en guerre, hein, ou alors, tout simplement, écoutez bien, soit de pousser la grande porte de l'inconnu. C'est ainsi les termes qu'il employait. La grande porte de l'inconnu. Grand point d'interrogation. Ah ! Peloton d'exécution, vous savez ce que ça veut dire. Hein ? Mais cette grande porte, nommée de l'inconnu, c'était quelque chose d'assez particulier. À la question, qu'est-ce que tu veux ? Exécution ? Ou alors, la deuxième solution. Tous les condamnés, ou le condamné répond, le peloton d'exécution. C'est curieux. Hein ? C'est curieux. Il n'y a rien de mystérieux dans un peloton d'exécution. Parce que ça signifie quoi ? Mourir. Ah oui, en principe, c'est comme ça que ça se passe. D'ailleurs, c'est fait pour ça. Hein ? Hein ? Que ce soit les fusils, que ce soit la guillotine ou autre chose. Alors, rien de mystérieux. Mais le général avait constaté cette commune attitude, mourir, pour quelqu'un qui était fait prisonnier, plutôt que d'affronter l'inconnu. Ah, ça, c'était quelque chose. Et vous allez voir que c'est une attitude qui est quand même tellement répandue parmi les hommes d'hier comme d'aujourd'hui. L'inconnu. Ça, c'est terrible. Alors, quelqu'un de l'entourage ou de l'état-major, du général, eh bien, lui a posé aussi cette interrogation. Si les condamnés choisissaient la grande porte, qu'est-ce qu'ils trouveraient derrière ? Qu'est-ce qu'il trouverait derrière ? Et le général a répondu ces deux mots. Il trouverait la liberté et la vie. Dites donc, quand on prêche l'évangile, D'un côté, le clan du refus, c'est le peloton d'exécution, hein. C'est le jugement et la condamnation, c'est pas ça, non? Je me trompe pas, il me semble que j'ai lu quelquefois l'évangile, il me semble que c'est ce que j'ai retenu. Hein. L'incrédule, celui qui refuse, celui qui ne veut pas marcher, celui qui maudit Dieu, celui qui, finalement, eh bien, d'une manière pratique, ne maudit peut-être pas Dieu, mais n'a rien à faire de Dieu. Ça, c'est le peloton d'exécution. Hein. Parce qu'il ne nous est pas dit que c'est Dieu qui condamne. Nous nous condamnons nous-mêmes par refus. Par refus de croire, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Le général répond, deux choses. La vie, la liberté. Or, bien peu ont le courage de choisir la porte de l'inconnu. C'est pour ça qu'il y a tant de difficultés à prêcher l'évangile dans un monde qui se croit croyant, croyant, chrétien, et qui ne l'est pas. C'est pour ça qu'il y a tant de difficultés à convaincre peut-être nos amis, nos parents, nos frères, nos sœurs, que nous avons pour leur dire « Mais moi j'ai trouvé Jésus, j'ai découvert, j'ai poussé la porte de l'inconnu, et qu'est-ce que j'ai découvert ?» J'ai découvert la connaissance de Dieu et le salut, le pardon de mes péchés. J'ai découvert la vie, j'ai maintenant l'assurance de la vie éternelle parce que j'ai osé faire confiance à ce que Dieu me disait, à ce que Dieu m'a proposé. J'ai osé pousser cette porte. Et là, j'ai découvert la liberté. J'ai découvert la vraie vie, la paix, la joie, le bonheur. Bien que pour un chrétien, les jours ne sont pas toujours faciles, mais nous ne sommes pas tout seuls à marcher et à pousser cette porte. Le Seigneur est là aussi. Il est là pour nous aider. Alors la porte de l'inconnu, car cela fait demande, parce que pousser cette porte de l'inconnu, cela nous amène à avoir et à demander à Dieu qu'il nous donne beaucoup de foi et de courage. Eh oui. Parce que si la mort fait peur, si le peloton d'exécution fait peur, il y a quelque chose qui fait encore plus peur. C'est d'aller vers l'inconnu. On le voit. Écoutez, quand les gens, on leur parle de la mort dont on leur parle, parce qu'ils sont confrontés tous les jours, nous sommes confrontés tous les jours avec la mort, vous savez, c'est pas de mourir. Hein. Ils craignent d'abord de mourir en souffrant, la souffrance pour mourir, mais ils craignent l'inconnu. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Qu'est-ce qu'il y a? Et il y a que les courageux. Il n'y a que ceux qui ont la foi, ceux qui ont l'audace de croire, qui découvrent qu'il y a une autre vie, qu'il y a la liberté de l'autre côté, qu'il y a une autre dimension. Eh oui, pousser la porte de l'inconnu. Et vous savez, si vous êtes là ce soir, si nous sommes là, c'est parce qu'un jour nous avons poussé la porte de l'inconnu. Mais nous avons fait confiance. Nous ne savions pas ce qu'il y avait derrière. Mais il y avait une chose, c'est que Dieu nous avait donné, il avait levé quelques bribes, quelques pans du voile pour nous dire « Mais je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, ne t'effraie pas, n'aie pas peur, n'aie aucune crainte, je suis avec toi, je marche avec toi. » Eh bien, vous avez choisi la bonne part, si vous le voulez. Oui. Et ça, c'est quelque chose de réjouissant, c'est quelque chose de formidable. Parce que d'un côté, il y a l'homme livré à lui-même, et de l'autre côté, il y a cette association entre l'homme, son créateur, qui est devenu son sauveur, son rédempteur, qui nous conduit, qui nous mène à la conquête, non pas du pays de Canaan, où coule le lait et le miel, mais à la conquête, finalement, de la plénitude du salut. Non pas pour cette vie uniquement temporairement, mais pour l'éternité. Porte de l'inconnu. Oui, du courage, il nous en faut. Mais Dieu nous donnera la force de ce courage. Il nous donnera également ce qui accompagne le courage, c'est la foi. Si je fais confiance, alors est-ce que le courage va découler? Et après, nous allons nous apercevoir que là où c'était une montagne, là où c'était insurmontable, eh bien, c'est devenu possible. Et Josué, c'est devenu pour lui possible, en marchant avec Dieu, de conquérir ce pays, le pays de Canaan. La démarcation entre le médiocre, parce que nous avons peur, le médiocre, oui, une vie qui n'est pas la vie, mais qui n'est qu'une existence, ratatinée, petite, souvent mesquine, sans vision, sans perspective, d'autre chose que mangeons et buvons parce que demain nous mourrons, comme dit l'Écriture. Alors, cette ligne de démarcation entre le médiocre et le succès s'appelle le courage, tout simplement. Alors, permettez-moi de vous dire une dernière chose, si vous permettez que je vous tutoie. Fortifie-toi et prends courage, vous n'êtes pas offusqué. Vous voulez que je vous le dise autrement? Fortifiez-vous. Et prenez courage, ça revient exactement au même, mais poussez donc la porte. Poussez donc la porte de l'inconnu. Et là, vous allez découvrir que vous avez été déjà connu, que vous avez déjà été aimé par un Dieu qui veut vous sauver et qui veut vous bénir. C'est comme ça que l'on marche finalement vers la victoire et la bénédiction de Dieu. On va prier quelques instants si vous voulez. On va se recueillir quelques instants. On va remercier le Seigneur. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie parce que tu es un Dieu merveilleux. Moi, je l'ai découvert, je sais. Je sais, Seigneur, que ma foi n'est pas vaine. Je sais en qui j'ai cru. Et c'est vrai qu'à un moment ou à un autre, j'ai dû prendre le dessus sur mes craintes, mes peurs, mes raisonnements, mes appréciations, mes préjugés aussi. Et tu m'as montré que derrière cette porte, il y avait la vie, il y avait la liberté. Et aujourd'hui, ce que nous le sommes non pas pour le moment, pour l'instant, l'immédiat, mais nous le sommes aussi pour l'éternité. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie pour cet exemple de Josué. Josué a une grande tâche à accomplir. Il l'a rempli, il l'a fait, parce que c'est toi qui l'avais choisi. C'est toi qui l'avais appelé. Il a pu te répondre, sans savoir tellement où il allait. C'était pour lui l'inconnu, mais néanmoins il t'a fait confiance. Et toi, tu es venu véritablement le fortifier avec les paroles que nous avons échangées ce soir. Je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Seigneur, lorsque nous avons une mission, lorsque nous avons quelque chose à faire, un rôle à remplir, lorsque nous sommes tout simplement, eh bien, en effet, tes enfants, nous croyons, Père éternel, que cette parole, elle nous fortifie considérablement pour continuer à marcher. Et je te prie pour mes amis, ce soir, ici, demain, peut-être, plus loin, ailleurs, je te demande, Père éternel, peut-être que certains sont confrontés avec des barrières, devant des barbelés, devant des montagnes, devant des forteresses, devant des précipices, qu'ils n'osent franchir, eh bien, Seigneur, tu leur réponds tout simplement, fortifie-toi et prends courage, c'est ainsi que tu réussiras dans tes entreprises et dans ta vie. Merci Jésus. Amen. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.